Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
Bonjour à tous. J'ai en face de moi un personnage qui s'appelle Bernard Naloulou. Alors, il va me dire tout à l'heure si je prononce bien. Sociologue, géographe, il est sartois d'adoption et, comme son nom l'indique, il est d'origine africaine, bien évidemment. Et tout naturellement, il est le président fondateur de l'association humanitaire France-Congo-Brazzaville. Bonjour. Alors, dites-moi, c'est Bernard
Naloulou.
Nkaloulou.
Oui, oui.
Pour les Français, on dit comme ça.
Ah oui, Nkaloulou.
Nkaloulou. Mm. Mais en africain,
on... Kaloulou.
Kaloulou.
Voilà.
Voilà. C'est juste pour se cultiver un petit peu, là. Pour déjà s'imprégner de la culture africaine. Alors, vous êtes... donc, comme on l'a dit, on a bien compris que vous êtes d'origine africaine, il n'y a pas de doute.
Mm.
Mais vous êtes arrivé il y a longtemps en France.
Très longtemps, je suis arrivé en France en 74.
74, voilà. Ça ne nous rajeunit pas ça.
Ah oui.
Ah oui, alors, comment vous êtes atterri dans la Sarthe en plus? Parce qu'en France, bon déjà, ça c'est une chose, mais de toute façon, dans la Sarthe, dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui s'est passé
pour vous? C'était un périple européen. Mon pays m'avait envoyé en Belgique pour faire des études de kinésithérapie.
Ah, c'était ça au départ?
C'était ça au départ, en 73-74. Et comme je ne me plaisais pas beaucoup en Belgique, en 74, je suis arrivé à Tours, à l'université de Tours.
Voilà, vous avez pris votre valise.
J'ai pris ma valise. Et donc, j'ai changé et de pays, mais aussi de formation.
De formation.
Ce n'est pas en kinésie que je m'inscris lorsque j'arrive en France, mais plutôt en sociologie et en histoire-g.
Voilà, c'est voilà. Ça. Ça c'est. Alors, du coup... Vous vous êtes retrouvé dans la Sarthe parce que vous avez...
Et alors, dans la Sarthe, effectivement, j'ai rencontré ma femme qui était étudiante à Tours. Quand elle a eu son diplôme de psychologie, eh ben, le réflexe, c'était de chercher du boulot tout de suite, mais pas à Tours. À l'époque, la Sarthe était moins pourvue. Et donc, on est venu, on s'est aperçu qu'il y avait un concours de psychologue à la DAS. Donc, elle a été prise. Et du coup, je l'ai suivi.
En fait, vous avez épousé une Sartoise et la Sarthe.
C'est pas une Sartoise.
Ah, c'est pas une Sartoise.
Ah oui, c'est pas une Sartoise. C'est une Ardennaise qui habitait Chartres, mais qui est allée à l'université, donc à Tours. Hein, à l'époque, donc, c'est l'université Orléans-Tours. Et comme par hasard, on s'est rencontrés, donc, comme moi, j'étais aussi à l'université. Donc on s'est rencontrés là.
Et là, vous avez été professeur au lycée de la Germinière de Rouillon.
Voilà, j'ai été professeur un peu partout avant la Germinière.
Autres, oui.
Mais en gros, oui, en gros, c'est vraiment à la Germinière de Rouillon que j'ai terminé ma carrière.
Alors, on est là pour parler de livres. Maintenant, ça y est, on a fait votre connaissance.
Mmh.
Vous avez commencé dans l'écriture assez tôt, hein, très tôt, même en 1984, avec Dynamique paysanne et développement rural au Congo. Chez l'Harmattan. Mmh. Et on l'a dit, vous êtes sociologue.
Oui.
Et donc ceci explique cela. Il était donc naturel de commencer par ça. Alors qu'est-ce que vous vouliez montrer au départ dans ce livre-là?
Alors dans ce livre, tout d'abord, je ne cesserai jamais de remercier mes professeurs, notamment M. Georges Ballandier.
C'est l'occasion de...
Qui a présidé donc ma thèse et qui m'avait dit, monsieur Bernard Nkaloulou, il faut que vous écriviez ce roman. Votre thèse n'existe qu'en 8 exemplaires dans toute la France. Et si vous voulez que vos idées se diffusent, eh bien, il faut absolument que vous publiez dans une édition. Et à l'époque, effectivement, l'édition qui avait accepté, c'est l'Harmattan.
Oui, qui sont un peu, de toute façon, chez l'Harmattan, des spécialistes de publication
voilà,
de thèses.
Voilà, l'Afrique aussi, voilà.
Ouais, et puis et sur comme, l'Afrique, voilà, comme ils ont toute une collection. Oui.
Voilà, et comme c'est un essai sur le développement, évidemment, il a eu beaucoup de succès en Afrique et dans les universités africaines.
On le trouve encore? On peut encore le trouver?
Ah oui, on le trouve encore. Mais vraiment, il a eu beaucoup, beaucoup de succès parce que c'était un livre fait à l'époque par un développeur. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de propositions pour développer effectivement l'Afrique et notamment le monde rural.
Et donc, on va voir que c'est votre premier livre, mais c'est pas le dernier d'abord. Et puis surtout, Vous êtes peut-être français, sartois et tout, oui, ce qu'on veut, mais c'est toujours l'Afrique qui est au centre de tous vos livres.
C'est toujours l'Afrique parce qu'on n'oublie jamais son pays.
Il y a un coin de son cœur qui est toujours là-bas. Ouais.
Même quand il s'agit d'un petit caillou ou d'un bout de sable, une fois qu'on y est né, on y est attaché. Et c'est vrai que j'avais l'impression, tout d'abord, j'étais envoyé dans ce pays par le pouvoir public. Donc je dirais que par mon pays, par les contribuables de mon pays d'origine.
Donc vous lui devez
et,
ça.
Et j'avais l'impression de devoir quelque chose. Et donc, voilà. Voilà.
Donc vous renvoyez l'ascenseur en quelque sorte.
J'essaie de renvoyer l'ascenseur.
C'est ça. Vous n'oubliez pas. Alors donc on avait bien compris que c'est le Congo hein, qui est votre pays d'origine.
Le Congo-Brazzaville.
Congo-Brazzaville, important à dire. D'ailleurs, dans vos livres, vous abordez des titres même ce sujet-là.
Indépendance.
Vous avez écrit en 2006, alors là c'est intéressant pour nous, pour l'Europe, pour la France, parce que vous nous faites entrer de plein pied dans la culture africaine, et vous commencez très fort avec en 2006 Le Lièvre et le Caméléon, qui est une compilation de contes congolais,
voilà.
Mais comme c'était pas suffisant, vous avez donné une suite, La Belle et le Diable, et puis comme c'était pas encore suffisant, vous avez publié, alors plus récemment cette fois-ci, Le Verger de N...
de Ngol et Léopard.
Ngol Léopard,
voilà.
Qui est cette fois-ci plutôt, qui est encore, c'est encore des contes, pardon.
C'est toujours un recueil de contes.
Voilà, mais j'ai oublié, voilà. C'est Bingana, ou Le Souffle des Ancêtres, qui cette fois-ci est consacré à tout ce qui est proverbes, les adages du Congo-Brazzaville.
Très bien.
Donc voilà, là j'ai présenté une compilation qui est accessible aux gens dans toutes les bonnes librairies. Alors, j'ai l'impression que l'Afrique, c'est quasiment, comment dire, le cœur des légendes et des contes. Je pense que c'est le territoire du monde qui rassemble le plus d'histoires comme ça, fantastiques. Non, je me trompe ?
C'est possible.
C'est très riche, en tout cas.
C'est possible parce que comme c'est un continent de l'oralité,
oui,
c'est l'oral, et on n'écrit pas. Et donc, on parle beaucoup, on communique beaucoup.
Dans les villages.
On transmet beaucoup dans les villages. Et c'est vrai que les légendes, eh bien, la meilleure façon de pouvoir les transmettre, c'est de les dire.
De les dire.
De les rendre intéressantes. Hein, et comme c'est intéressant, les gens y adhèrent le plus facilement du monde.
Et les écrire, c'est laisser la mémoire pour éviter que ça s'échappe, que ça disparaisse.
Moi, j'ai bien vibré avec cet oral. Me suis cultivé avec ça, j'ai grandi avec ça. Et pour moi, c'est une manière, effectivement, de le transmettre, cette fois-ci, en les écrivant. Hein, mais sans les dénaturer. Et je vous assure que au départ, j'ai eu pas mal de difficultés. Je me disais, suis-je encore fidèle à l'oralité?
Oui, parce que c'est ça, l'écriture.
Voilà,
l'écriture, c'est une autre façon.
Ben oui, parce qu'on traduit.
Donc, transformer l'oral en écrit, c'est pas si évident.
C'est pas
ça,
évident.
Hein.
On réfléchit en africain et il faut transmettre en français.
C'est un petit peu comme quand on traduit une langue.
Oui,
c'est pas évident,
exactement,
de traduire la pensée exacte,
exactement,
d'une phrase.
On
le sait bien, hein, quand on traduit,
exactement,
ne serait-ce que la langue la plus connue qui est l'anglais. Restituer la pensée d'un écrivain anglais, transposé en français, c'est pas évident.
Oui.
Mais alors là, c'est la même chose finalement.
Ah, c'est exactement
la même difficulté.
C'est exactement la même chose. Au départ, j'avais peur, mais quand j'ai écrit 3 ou 4 contes, parce qu'au total, il y a à peu près 80 contes, hein, sur les 3.
Sur tout l'ensemble des livres dont on vient de parler, là.
Hein. Et au départ, donc, j'en avais peur, mais assez rapidement, j'ai trouvé mes marques et j'ai pu, j'espère, que j'ai transcrit fidèlement ces réalités culturelles.
Donc ça, c'est une sacrée richesse parce que c'est de la mémoire. Oui. C'est, pour moi, ça relève de l'archive. C'est, ah ben ça oui. va au-delà du livre.
Oui, et alors les proverbes, il y en a sur mon recueil de proverbes, il y a 600 proverbes.
C'est énorme. Oui.
Mais j'étais aidé par des variantes. Les hommes sont partout les mêmes, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, parce qu'ils vivent les mêmes réalités, notamment les réalités rurales, etc. Et on trouve énormément de variantes françaises dans les proverbes congolais ou africains.
Alors moi j'avais appris, d'ailleurs ça rejoint tout à fait notre sujet, puisque là, il s'agit de préserver la mémoire voilà. à travers des archives. Je me souviens, moi, je crois que c'est un proverbe africain qui dit « Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». J'ai trouvé ça très joli et tellement vrai, tellement vrai.
Il n'y a rien de mémoire.
À l'écoute des mots sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com.
Après, vous vous mettez au roman. Vous n'avez pas fait que ça, mais on va toujours rester en Afrique. Le premier roman, c'est La Ronde des Polygames en 2010, dans le Congo des années 50-60. C'est important de le dire, parce que c'est juste avant l'indépendance. Et en fait, vous faites, à travers ce roman, une étude sociologique en même temps. C'est un petit peu la situation à cet instant-là qui précède l'indépendance. Je me trompe, c'est bien ça?
Non, c'est exactement ça. Ce roman, en fait, c'est un roman intimiste.
C'est un peu de votre vie à travers ça?
L'auteur n'est pas très loin.
Il n'est pas très loin, voilà.
Hein, l'auteur enfant, adolescent, il n'est pas très très loin. Hein. Et c'est vrai que ce roman, La Ronde des Polygames, c'est aussi une manière de rendre hommage à mon père qui était polygame et qui n'en était pas heureux, contrairement...
Pas plus que ça.
Contrairement à ce qu'on peut
penser. Oui, ça fait rêver que les Occidentaux, ça.
Ça fait rêver. Il avait 4 femmes, mais il en bavait. Et finalement, j'ai voulu remettre à la place... cette fonction de polygame. En plus, il n'a rien demandé, mon père. Il n'a rien demandé. Il ne s'est jamais marié.
En fait, c'était la tradition, tout bêtement. Il suivait bêtement la tradition.
Il appartenait à une fratrie de 12 enfants, dont 8 étaient des hommes. Et ces hommes sont morts peu après leur mariage. Or, chez nous, lorsque un frère mourait, eh bien, l'autre frère ne devait faire ni veuve, ni orphelin, donc il prenait la femme laissée par le frère en mariage. De la sorte qu'on gardait uni.
C'est comme ça qu'on devenait polygame.
C'est comme ça qu'on devenait polygame.
Par nécessité de solidarité.
Par devoir.
Par devoir.
Par devoir, parce que c'était comme ça que ça se passait. Chez nous, il n'y a pas d'orphelin, il n'y a pas de veuve. Et donc, mon père, voilà comment il s'est retrouvé avec 4 femmes, parce que ces 4... grand frère était mort.
Voilà. Ah oui, c'est ça l'explication. C'est pas forcément religieux,
non.
Parce que parfois on pense à ça, hein, comme les Mormons par exemple,
pour des
religions religieuses. Mais là non, c'est pas.
Ça existait.
C'est un peu comme une règle sociale qui consiste à s'entraider dans la famille.
Exactement, c'est une règle sociale. Et d'ailleurs, les termes nous dans la famille sont dans une famille en Afrique sont simplifiés. Quand on parle du grand frère, c'est pas forcément le grand frère de même père, même mère.
Ça peut
être un cousin. Chez nous, il n'y a pas de cousin germain ou de cousine germaine. Il n'y a que de frères et de sœurs.
C'est ça.
La sœur de ma mère, c'est ma mère comme ma mère.
Ouais.
Mon papa, je ne l'appelle pas l'oncle paternel, mais je l'appelle papa. Et donc, finalement, lorsque on reprenait les enfants qui vous appelaient déjà papa, même si leur papa est parti, eh bien, l'éducation se faisait, l'intégration était beaucoup plus aisée.
Ça, c'est de l'esprit familial, hein.
Il avait le devoir.
Sinon, il aurait été très mal vu.
Ah ben,
il aurait été mis à l'écart ou je sais pas.
Il serait très mal vu, il serait exclu.
Exclu, voilà, mis à l'écart.
Or, chez nous, sans famille, on ne vit plus.
C'est fini.
Parce qu'il n'y a pas de jeu, on ne réfléchit pas, on ne dit pas je ou moi.
C'est toujours nous.
C'est toujours nous.
Nous.
C'est toujours nous. Et lorsque votre âge de vous marier est arrivé, c'est la famille qui va vous proposer la bonne réponse pour la famille. Et qui va,
dans l'intérêt de la famille.
Qui va vous marier. Dans tous les cas, que vous repreniez les femmes de vos frères, que les frères vous ont laissées, ou qu'on vous dise, bon, tu te maries avec elle, c'est quasiment pareil. Donc, on ne décide pas tout seul, c'est de collectif.
Donc vous êtes un cas à part, parce que vous, au moins, vous vous êtes marié par amour.
C'est un cas à part, ça m'a évité, effectivement, pas mal de choses. D'ailleurs, si je suis parti de mon pays, peut-être parce que je ne voulais pas retomber dans
ce système de fonctionnement.
Certainement.
Oui,
certainement.
C'était un peu une fuite, une petite fuite.
C'est une petite fuite.
Oui. Ouais, un petit peu ça. Ouais.
Ma que le pas, un ancien combattant, Unasuki. Ma que le pas, un ancien combattant, Unasuki. Ma que le pas, un ancien combattant, Unasuki. Ma que le pas, ancien combattant, Unasuki. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarades ouai. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon.
Alors ensuite, vous avez continué dans les romans. Avec celui d'après, c'était Promesse de gorille. Est-ce que vous pouvez résumer rapidement?
Alors, Promesse de gorille, c'est toujours... c'est un jeune. Oui, c'est un jeune. En fait, né d'un père qu'il n'a jamais vu. Et qui a toujours juré que lorsque j'aurai l'âge...
Je retrouverai mon père.
J'irai à la recherche de mon père.
Alors, on ne révèle pas s'il le retrouve ou pas. Il faut lire le roman.
Mais cette recherche de père, c'est un, comment dirais-je, c'est un prétexte. En réalité, ce roman, c'est une sorte de road maudit. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il bouge, il enrichit effectivement.
C'est ça, il cherche son père, mais en fait il se cherche lui-même.
Il cherche lui-même.
Sa voie.
Voilà,
il exactement. Cherche son destin.
Exactement.
Il court après son destin, enfin il court.
Exactement. Exactement.
C'est un double parcours.
Voilà, et comme un seul pays ne suffit pas de s'enrichir, on peut imaginer que quand il arrive au Congo, eh ben, il faut qu'il continue.
Et le même chemin.
Le même chemin, et il arrivera... en France, et après la France, ben on le surprend en train de prendre l'avion pour le Québec. Est-ce qu'il a trouvé le père?
On n'en sait rien.
On n'en sait rien.
Bon, et ben voilà. Et puis le petit dernier.
Sauvage toi-même, c'est ça peint la réalité, la cohabitation entre les pygmées.
C'est ce que j'allais dire, voilà. Alors ça se passe en Afrique centrale, il faut le préciser, pour ceux qui, la géographie africaine, ils la maîtrisent mal. Voilà. Et d'ailleurs, vous dites à ce propos que c'est une région qui est assez méconnue des Occidentaux.
Exactement. Et même cette réalité, cette région est méconnue.
Et voilà, et là vous dites que, effectivement, moi je ne le savais pas, ça, les pygmées, ça fait rêver. Hein, chez... C'est un peuple de légende,
Hein.
Et vous dites qu'en fait, effectivement, ils ont des difficultés de cohabitation avec les Bantous.
Bantous.
Alors, pour quelle raison ils n'arrivent pas à s'entendre, ces gens-là ?
Alors, les Bantous, ils viennent à peu près du sud du Nigeria.
Oui.
Il y a à peu près 2000 ans. Ils viennent de cette partie. Et ce Bantou décroche parce que, sans doute, le Sahara s'agrandit.
Les oblige donc à reculer vers le sud.
Et ce Bantou trouve la voie, c'est la partie sud de l'Afrique. Et donc, les Bantous déversent, donc c'est les Bantous qu'on trouve en Afrique du Sud et c'est les Bantous qu'on trouve en Afrique centrale. Tout ça, c'est des Bantous. Et quand ils arrivent, eh bien, ils ne sont pas tout seuls. Il y a des autochtones qui vivent là depuis des millénaires.
Et
ces autochtones, ce sont des pygmées.
Et en fait, les pygmées n'ont jamais vraiment accepté leur présence.
Eh bien, c'est-à-dire que ils sont minoritaires. Les Bantous, ils ont... Tout d'abord, le nombre avec eux.
Ah oui, paradoxalement, les Bantous sont plus nombreux que les Pygmées qui, eux, sont chez eux.
Ils sont plus nombreux, ils ont le nombre avec eux et ils ont une révolution industrielle avec eux. C'est-à-dire qu'ils savent fabriquer des armes, ils connaissent la forge, etc. Donc, technologiquement parlant, ils ont de l'avance. Et quand ils arrivent là, les Bantous, ils ont besoin des Pygmées parce qu'ils n'habitaient pas dans la forêt. Ce sont des pygmées qui vont les instruire que tel serpent est dangereux, que lorsqu'on est malade, mal à la tête, c'est ça qu'il faut prendre et tout ce qui s'en...
Alors, paradoxalement, ils se supportent difficilement, mais ils partagent des connaissances quand même.
Ils partagent les connaissances quand même.
C'est surprenant.
Mais une fois qu'ils connaissent le milieu à travers les pygmées, eh bien, ils n'en veulent pas. Et comme les pygmées sont très peu nombreux, eh bien, ils vont s'enfuir dans la forêt et se mettre dans la forêt.
Voilà. Voilà pourquoi les pygmées vivent aujourd'hui sur un autre territoire que le leur.
Voilà. Voilà pourquoi les pygmées, effectivement, sont obligés de se cacher dans la forêt.
C'est un exode.
Laissant aux Bantous...
Le territoire.
Le territoire.
Qui est le leur, normalement.
Le leur, normalement.
Bon, on va arrêter là, parce que l'émission approche de la fin. On est
et le dernier, c'est le pousse-pousse de Makelekele. Hein?
Ça, alors,
c'est une jeunesse, hein, c'est la problématique, c'est toujours la jeunesse, mes livres, donc les pousse-pousses de Makelekele. On est en train de suivre une jeunesse bien donnée pour se demander, mais qu'est-ce qu'elle devient, cette jeunesse? Qu'est-ce qu'elle deviendra? Parce que cette jeunesse se dit sacrifiée. Donc le pousse-pousse de Makelekele.
Là, c'est très actuel.
Oui, c'est très actuel. C'est fin 2021.
Voilà, oui, là on est en plein dedans. Là.
Voilà.
Avec le Covid qui est passé par là en prime.
Voilà. Ouais.
Juste avant de se quitter, est-ce qu'il y a un livre en préparation, un autre ?
Il y a un livre en préparation, Bertrand.
Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Oh, je peux te le. Alors, je suis en train de préparer un petit livre, une sorte d'abécédaire amoureux au Congo.
Ah, c'est sympa aussi l'aspect amoureux.
Comment draguer un Congolais ou une Congolaise.
Ah ben voilà qui est intéressant. Ça devrait plaire à pas mal de gens, ça.
Voilà.
Eh ben, merci beaucoup, Bernard. Merci. Et donc maintenant, je pense que les auditeurs ont découvert un auteur original, intéressant. Et puis, si vous allez en vacances en Afrique, prenez les bouquins de Bernard Nkalulu dans votre valise. Et puis, vous allez voir sur le terrain. Vous allez vivre en même temps les légendes, la réalité.
Voilà. Le livre, c'est un voyage.
Voilà.
Avant même de partir en Afrique, il faut en profiter.
Exactement.
Même qu'on parte ou pas. Eh bien, découvrez effectivement, faites ce voyage à travers mes livres.
Voilà, eh bien, on a bien conclu là. Hein. Eh bien, merci à vous. Et puis pour les auditeurs, eh bien, on se retrouve dans 15 jours avec un auteur aussi passionnant que notre ami Bernard, j'espère. Enfin, je pense qu'ils sont tous passionnants de toute façon.
Oui.
Bien, à bientôt. Donc, au revoir.